hier, quand on est jeune, je les regardais depuis que je suis arrivé, et je me disais quelle belle jeunesse, dynamique et pleine d'avenir. Être un des témoins de la prière qui vient d'être adressée au Seigneur pour qu'ils soient accompagnés tout au long de leur vie, alors c'est vraiment un sujet de joie et de satisfaction. Nous allons ensemble parler de la grâce de Dieu.
Pour quelle raison ? Parce que assez souvent, la grâce est quelque part méconnue au cœur même du peuple qui devrait la sonder et l'apprécier pleinement. Combien y a-t-il de tensions dans la vie chrétienne ? Parce que le chrétien oublie que tout ce que Dieu donne, c'est au travers de sa grâce, et que nous sommes incapables, par nous-mêmes, de vivre la vie chrétienne et de satisfaire donc aux exigences divines. Dans la Bible, le mot grâce est mentionné 11 fois dans l'Ancien Testament et 115 fois dans le Nouveau Testament. Quelle est la définition de la grâce, dans le fond ? La définition la plus courte et la plus profonde, c'est que la grâce est une faveur imméritée. Faire grâce à quelqu'un, c'est lui accorder quelque chose qu'il ne mérite pas. Voilà donc une définition intéressante dont il faut nous souvenir, parce que tout au long de notre vie de chrétien, lorsque nous nous trouvons démunis et incapables, alors n'oublions pas que le Seigneur nous accorde sa grâce de façon imméritée. J'ai utilisé ces trois versets ou trois passages de l'évangile de Jean, l'épître aux Éphésiens et de Tite, parce que ces trois passages nous présentent rapidement la grâce. La grâce est personnifiée au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, en Éphésiens, il est question de la grâce par laquelle nous sommes sauvés, saisis par la foi, mais en même temps est lié au salut les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et puis, le troisième texte de Tite nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne. » Et souvent, on oublie que Dieu nous enseigne au travers de sa grâce. Autrement dit, Dieu nous enseigne avec grâce. C'est-à-dire que lorsque le texte de Tite nous dit que la grâce nous enseigne, ça veut dire que la grâce va nous accompagner tout au long de notre vie dans la sanctification. Puisque nous avons la grâce qui nous sauve, mais aussi la grâce par laquelle nous sommes sanctifiés et en laquelle nous pouvons progresser. Dans l'Ancien Testament, le plus bel exemple de grâce divine est celui de la délivrance du peuple hébreu, comme vous le savez, captif en Égypte, et de son établissement dans la terre promise. Cette délivrance n'est pas arrivée parce que les Hébreux le méritaient, mais cette délivrance, cet exaucement, cette préoccupation de Dieu pour ce peuple est arrivée malgré leur manque de droiture. En effet, Dieu va faire dire au peuple par la bouche de Moïse, en Deutéronome chapitre 9, versets 5 et 6, « Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple aux cours roides. » Donc un peuple résistant. La grâce de Dieu vis-à-vis d'Israël a donc été manifestée en dépit de leur résistance et de leur manque de droiture de cœur et de leur absence de justice. N'oublions pas que dans la Nouvelle Alliance, le principe est toujours le même. Toute notre justice est celle de Christ. Et toutes les grâces que Dieu nous accorde, c'est par rapport à Jésus-Christ. Bien que la grâce soit toujours gratuite et imméritée, il ne faut pas la considérer comme allant de soi. Pourquoi ? Parce que la grâce ne peut être reçue que dans le cadre de cette alliance que Dieu propose et veut passer entre toute créature et lui-même. Dieu ne peut pas accorder sa grâce en Jésus-Christ en dehors d'une rencontre personnelle avec lui, d'une conversion. Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, fait briller son soleil sur le bon comme sur le juste comme sur l'injuste, c'est-à-dire sur celui qui croit et sur celui qui ne croit pas. C'est ce que dans la Sainte Écriture, on appelle la grâce commune. Oui, Dieu permet qu'il y ait du soleil et qu'il pleuve pour que l'herbe pousse, pour que le blé pousse et que toute l'humanité puisse véritablement être nourrie. Mais il en va autrement en ce qui concerne la grâce en Jésus-Christ. Cette grâce qui nous acquiert le salut et qui nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle ne peut être connue et découverte que dans cette relation personnelle avec Christ. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 1 verset 14, il est dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et bien entendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté le salut. Et dans l'épître de Tite, comme je l'ai déjà cité, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. » Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a restauré la relation personnelle brisée entre Dieu et son peuple, donc le peuple juif, mais aussi les païens, ce qui représente l'Église, juifs et païens, réunis ensemble, unis en Jésus-Christ. Le seul chemin de salut pour une personne est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, au chapitre 15, là où il est convenu de parler du premier concile, on a dû réunir les responsables de l'Église de Jérusalem et puis des chrétiens de différentes assemblées, communautés qui se sont réunis pour discuter, mais peut-on imposer aux païens des principes de la loi de Moïse ? Et alors, au milieu de toute cette grande conversation, l'apôtre Pierre va prononcer cette parole, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Lui, Pierre juif, insiste pour dire, c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. Non pas qu'il mettait en doute son salut, mais il expose face aux juifs, aux chrétiens juifs qui voulaient judaïser. Il leur dit, mais il n'y a pas besoin de la loi pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de la pratique de la loi, le respect du Shabbat et de la nourriture, la cacheroute, etc. Non, il va dire en tant que juif né de nouveau, mais c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Les païens n'ont jamais mis en pratique la loi de Moïse, et pourtant, dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ils sont sauvés au même titre que les juifs qui se sont convertis. La grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ nous est donnée pour notre salut par le Saint-Esprit, qui est appelé dans l'Épître aux Hébreux, justement, chapitre 10, verset 29, l'Esprit de la grâce. C'est l'Esprit Saint qui nous fait connaître la grâce de Dieu, qui nous fait pénétrer dans ce royaume de Dieu fait de grâce, de pardon et de sainteté. L'Esprit Saint, et c'est intéressant qu'il porte ces deux titres, entre autres, l'Esprit de la grâce et l'Esprit Saint, car il n'y a pas de grâce sans sainteté, il n'y a pas de grâce sans pureté. Cela va avoir des conséquences sur notre comportement de chrétien. Non seulement Dieu nous sauve par grâce, mais Dieu nous sanctifie, parce qu'il ne peut pas faire autrement que de nous communiquer sa nature. Et donc la grâce a cette valeur de nous permettre d'avoir l'assurance de notre salut, la certitude du pardon de nos péchés, mais également la certitude d'être sanctifié. Si nous saisissons par la foi la grâce dans le domaine de la sanctification, souvent nous saisissons la grâce par la foi pour notre salut, Oui, Seigneur, je suis un pécheur, je suis perdu, sauve-moi. Et on oublie de saisir la grâce par la foi pour marcher dans la sainteté, dans la vie nouvelle au quotidien. C'est pour ça que la grâce, cependant, doit être accompagnée de la foi. Nous devons faire confiance à la miséricorde et à la bonté de Dieu, même quand nous ne les méritons pas. C'est ce que l'apôtre va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 16. Pour recevoir l'exposé de la vie de certains chrétiens qui partagent avec moi leurs difficultés, souvent je me rends compte qu'ils oublient cette dimension de la grâce pour marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Ils me disent, mais Jean, je suis sauvé, mais voilà, je commets des fautes et je n'ai pas la victoire. Et je leur dis, mais de grâce, saisissez la grâce pour la marche dans la sainteté. C'est étonnant cette situation. Et c'est pour cela que nous devons, même devant, après tant d'années de relations personnelles avec Jésus-Christ, devant les déceptions que nos propres réactions, notre propre péché parfois peut nous décourager, nous ne devons pas oublier que la grâce est justement pour ceux qui ne méritent pas. Et en tant que chrétiens, nous avons bien besoin de l'utiliser, cette grâce. Dans le fond, seul celui qui a conscience de ses péchés peut apprécier la grâce. Si nous n'avons pas conscience de nos péchés, si avant d'être né de nouveau, je n'avais pas eu, comme chacun d'entre vous, je l'espère, eu conscience d'être un pécheur perdu, je n'aurais jamais pu comprendre et saisir la grâce. C'est paradoxal, mais c'est extraordinaire. C'est parce que justement nous sommes des pécheurs que Dieu exerce sa grâce. Parce que nous ne pouvons rien faire pour atteindre cette sainteté de Dieu. Et une fois chrétiens, mais nous avons encore besoin d'utiliser cette grâce, d'avoir recours à la grâce de Dieu, en disant à Dieu, mais Seigneur, tu m'as sauvé, tu as pardonné mes péchés, je t'appartiens pour l'éternité, mais s'il te plaît, transforme-moi aujourd'hui. J'ai écouté un de nos jeunes hommes dans l'église, hein, et ça m'a vraiment fait plaisir, c'était dimanche dernier, il était de message dans notre église. Alors avec la radicalité de la jeunesse, et c'est fort heureux cette radicalité dans le domaine spirituel, eh bien il nous disait, mais le matin, dans notre prière, les prières que nous adressons à Dieu, nous devons dire au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre de ta sainteté. » Puis alors il nous disait, voilà, on se prépare, on va prendre notre petit déjeuner, mais c'est tellement important de vivre dans la sainteté qu'on se remet de nouveau à genoux et on dit, avant de manger le petit déjeuner, on dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux vivre de ta sainteté. Puis alors, puisque c'est un homme qui travaille, alors il dit, avant de partir au travail, j'ai de fermer l'appartement, la porte à clé, il a dit, mais j'ai demandé de nouveau à Dieu de vivre dans sa sainteté. Et puis dans les transports en commun, j'ai renouvelé cette prière. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas pécher, je compte sur ta grâce. Et il nous disait, avec cette force de la jeunesse, il nous disait, et vous, est-ce que vous priez de la sorte? Alors moi, qui suis beaucoup plus âgé que lui, j'ai sondé mon cœur. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une préoccupation majeure dans ma vie? Et je me suis rendu compte que parfois, c'était tellement évident que je l'oubliais. Vous voyez comme quoi ce qui est évident, on peut parfois l'oublier. Et je me suis dit, il a raison cet homme jeune. Oui, il faut vivre dans la sainteté. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à. Et effectivement, c'est quand on est pécheur qu'on apprécie la grâce. Et ce que Dieu est capable de réaliser, c'est que tout en nous ayant sanctifié et communiqué sa nature, il nous permet simultanément d'avoir conscience de notre besoin de grâce et de cette maladie qui s'appelle le péché et qui, dans la vie du chrétien, a toujours une capacité à intervenir si justement nous ne demandons pas à Dieu sa grâce pour juguler le mal. Puisque vous le savez, la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, selon l'Épître aux Romains. Et c'est pour ça que la grâce est indispensable pour nous qui sommes sauvés. C'est le péché, un auteur a écrit la chose suivante, c'est le péché qui transforme l'amour en grâce. Et il a rajouté une personne, la grâce se penche toujours vers l'avant, l'amour tend vers l'avant, mais sur le même niveau. Je t'aime, bon, même niveau. Mais la grâce se penche pour nous relever. Je t'aime et je te fais grâce, nous dit Dieu. Quand on est perdu, pour nous sauver pour l'éternité, et quand on est sauvé pour nous sanctifier en vue de l'éternité. C'est Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand et théologien qui est mort dans les prisons nazies. Dans un de ses ouvrages, il parle des chrétiens qui n'ont pas conscience de la personne de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et il parle pour ces chrétiens de chrétiens qui considèrent la grâce comme étant une grâce à quatre sous. Une expression française, hein, c'est-à-dire une grâce dont on peut profiter comme cela sans prendre la mesure de la richesse et de l'aspect extraordinaire de cette grâce. Pourquoi ces chrétiens considèrent la grâce comme étant quelque chose à quatre sous? C'est parce qu'ils ne tiennent pas compte du prix payé par Dieu pour nous la rendre accessible. Et Dietrich Bonhoeffer dit que notre façon de voir Dieu est importante. Parce qu'on peut le voir comme certains de mes anciens collègues de travail me disaient, bon, Dieu c'est un vieux grand-père indulgent qui sourit à nos transgressions et qui dit, ouvrez les guillemets, ça lui passera en grandissant. Ou alors, nous voyons Dieu comme un Dieu redoutable dans sa sainteté. Et dans les Saintes Écritures, celui qui nous a sauvés, notre Père, celui qui nous a créés, qui nous aime, c'est le Dieu de sainteté. Et c'est pour cela que grâce et sainteté sont ensemble, toujours liés dans le Nouveau Testament. On ne peut pas parler de grâce et de laxisme. Dieu n'est pas laxiste, il est saint et miséricordieux et compatissant. Et si nous n'avons pas présent à l'esprit cette réalité de la sainteté de Dieu, nous allons nous comporter avec légèreté vis-à-vis du péché. Je souris parce que l'heure a tourné. Mieux nous comprenons la sainteté et la justice de Dieu, et mieux nous comprenons pourquoi il insiste dans sa parole quand il demande que ses enfants vivent une vie de sainteté et de droiture. C'est quand on a saisi ces choses qu'on comprend mieux pourquoi Dieu demande cela. Mais l'extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Et voyez-vous, la parole de Dieu, dit Paul en 1 Timothée 3,16, il dit, la parole de Dieu nous enseigne, nous corrige, nous éduque, afin de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Eh bien, la grâce de Dieu va nous enseigner d'une manière intelligente, intellectuelle, mais aussi concrète, pratique. Lorsque le Seigneur nous conduit dans le chemin de sainteté, lorsque le Seigneur pardonne nos péchés en tant que chrétiens, nous goûtons à cette grâce qui nous enseigne et qui nous fait voir comment marcher, dans quelle direction aller. La grâce de Dieu a cette capacité non seulement de nous sauver, de pardonner nos péchés, mais de nous accompagner tel un pédagogue pour que nous soyons transformés par cette même grâce en Christ, en chrétien, des petits Christ. Et c'est pour cela que nous devons avoir recours à la grâce de Dieu. Nous l'avons fait pour notre salut, faisons-le quotidiennement pour notre sanctification. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.